Et nous allons démarrer ensemble une toute nouvelle semaine de découverte et nous sommes installés pour cela au golfe de la Porcelaine à Panazol que nous allons découvrir avec différents intervenants et on va commencer avec eh bien, le président du club ici au golfe de la Porcelaine, Jean-François Blondeau, accompagné de Didier Tarnot qui est l'un des plus anciens joueurs dans ce golfe de la Porcelaine. Peut-être d'abord pour commencer, Jean-François Blondeau, un retour sur l'histoire évidemment, sur l'historique de ce golfe de la Porcelaine. On va remonter 30 ans en arrière.
Oh, on va même remonter beaucoup plus longtemps que ça, parce qu'on va remonter au début de notre passion. J'ai commencé, moi, en 1976 sur le golfe de Saint-Lazare. J'ai été un des tout premiers joueurs avec Didier à jouer sur ce parcours-là. Et c'est ce parcours qui nous a donné l'amour de ce jeu et de ce sport et qui fait qu'on a joué pendant des années là-bas avant de venir ici sur le golfe de la Porcelaine.
Bon, on peut évacuer déjà la polémique, sport, loisir, on dit les deux?
Oh, je crois qu'on peut dire sport, un loisir, tout à fait, parce que après ça dépend un peu du niveau des joueurs, mais pour beaucoup d'entre nous c'est un jeu, et pour beaucoup de jeunes joueurs ou de joueurs de haut niveau c'est un véritable sport.
On parlera sans doute de Tiger Woods dans le courant de la semaine, mais voilà, c'est peut-être l'objectif suprême.
C'est l'objectif de tout joueur, de toute façon on est tous des passionnés, donc la plupart d'entre nous on fait des compétitions tous les dimanches pour améliorer ce qu'on appelle notre classement, et ben, c'est un sport, parce que de toute manière, même si on a une bonne forme physique et tout ça, arrive un moment, il y a le stress de la performance qui arrive à gêner notre swing et à faire qu'on n'arrive pas toujours aux performances souhaitées.
C'est beaucoup plus compliqué le golf que certains peuvent se l'imaginer. Trois hommes à l'initiative de ce golf de la Porcelaine?
Trois hommes effectivement, François Lacot, Bernard de Coster et Jean-Michel Faugeron, aidés d'autres personnes dont mon ami Didier Tarnot, Claude Lachaise, qui ont été vraiment les précurseurs de ce parcours, parce qu'ils avaient compris que très rapidement le golf de Saint-Lazare reviendrait au bout de ses possibilités en qualité d'accueil, donc il fallait à un moment donné envisager un autre parcours, et c'est eux qui ont porté ce projet pendant des années.
Alors Didier Tarnot, justement, souvenir de ce début d'aventure, de la naissance de ce golfe de la Porcelaine?
Oui, un souvenir assez amusant d'ailleurs, c'est que d'abord, il faut féliciter le succès du golf municipal, puisque lorsque M. de Coster a eu l'idée de créer un nouveau golf, le golf municipal en 5 ans était quasiment arrivé à saturation avec près de 900 personnes. Et c'est pour cela d'ailleurs que donc Bernard de Coster, François Lacot et Jean-Michel Faugeron se sont lancés, Bernard de Coster pour toute la partie, je dirais, commerciale, technique, Jean-Michel Faugeron pour toute la partie juridique bien entendu, et puis François Lacot qui les assistait. Ça a été d'abord une grande satisfaction, car ce golf est très différent de l'autre, on ne peut pas les comparer. Il est très vallonné, avec par moments de magnifiques vues sur les monts d'Ambazac ou sur les hauteurs du palais. Il n'est pas facile, il nécessite beaucoup de réflexion, mais ils ont fait très rapidement, avec le concours d'un grand joueur de golf français qui s'appelait Jean Garayal, qui était probablement le meilleur joueur de tous les temps en France, qui était devenu architecte en fin de carrière. Ils ont créé ce magnifique parcours.
Et une chose que j'aimerais rajouter aussi, parce qu'il ne faut pas oublier un homme qui nous a beaucoup aidé dans ce développement du golf, c'est le premier pro de Saint-Lazare qui a été Dominique Larech, aujourd'hui consultant sur une chaîne de télé bien connue. Dominique Larech qui a été un enseignant de golf extraordinaire et qui a su créer auprès de tous les gens qui sont arrivés une vraie passion. C'était un très bon professeur de golf, et il a formé effectivement un certain nombre de professeurs, parce que ses frères sont professeurs, et aussi on peut citer une famille qui avait été initiée au golf qui s'appelle la famille Dufresne et dont tous les enfants sont professeurs de golf aujourd'hui.
Donc voilà, ça se transmet effectivement, et on parlera dans le courant de la semaine, puisqu'il y a ici l'école de golf, puisqu'on est évidemment dans le souci de la transmission. Il a fallu trouver un site, hein, on l'a dit, un site vallonné ici. Comment ça s'est passé? Souvenir là encore Didier Tarnot sur ce site qui a été loué pour 99 ans, si j'ai de bonnes informations.
Oui, effectivement, c'est un site qui était auparavant à vocation agricole. Le propriétaire des terrains, dans une région qui n'est pas facile sur le plan rentabilité en matière agricole, a accepté qu'on lui loue ces terrains avec un bail emphytéotique, et ça s'est parfaitement bien passé avec un propriétaire des lieux qui a vite été séduit par ce concept.
Et qui s'est mis au golf?
Oui, je crois qu'il s'est mis au golf. Moi, j'étais parti à l'époque, mais je pense que oui. Enfin, c'est ce que me confirme Jean-François.
En tous les cas, content content sans doute de ce qui est devenu son terrain, et puis avec un financement qui n'a pas forcément été facile non plus à monter hein, pour créer ce golf de la porcelaine. Je crois qu'il y a eu l'anecdote de faire parrainer les trous du golf par les entreprises qui mettaient un peu d'argent.
Effectivement, c'était une idée très astucieuse de Monsieur de Coster, qui a effectivement démarché différentes entreprises de tout secteur pour parrainer l'une un trou, soit du grand parcours, soit de ce qu'on appelle le putting green. Et il y a eu également, par une banque de la région, un crédit proposé à ceux qui souhaitaient acheter une part de la société civile immobilière.
Voilà, les choses ont été faites de façon très maligne pour mettre sur pied tout ça.
Et aussi, il ne faut pas oublier une chose, parce qu'au départ, ce golf devait s'appeler le golf des sources. Et le syndicat des porcelainiers de Limoges s'est dit, ça serait une bonne idée, c'est appelé le golf de porcelaine. Et ils ont apporté effectivement des fonds pour nous demander que le nom de ce golf soit le golf de la porcelaine.
Voilà. Pour terminer simplement, aujourd'hui, la place du golf, le travail qui est le vôtre, c'est de promouvoir ce sport.
Oh, c'est un travail quotidien, surtout que, qu'on le veuille ou non, l'image du golf est toujours liée à l'argent, alors que ce n'est plus vrai, puisqu'on peut jouer maintenant pour des sommes relativement très élevées, moins cher qu'une semaine de ski, par exemple, dans les Alpes, beaucoup moins cher qu'une saison de chasse, parce qu'on peut jouer toute l'année. Voilà. Et puis après, effectivement, tout cela peut créer des vocations, et on a des jeunes, que ce soit à la Saint-Lazare, que ce soit ici, qui sont en train de monter, qui peuvent devenir certains qui ont envisagé d'être pro. On a des joueurs, nous, qui sont devenus pro par la suite, professeurs, j'entends, et certains qui peuvent devenir professionnels. Aujourd'hui, le golf en France se porte bien au niveau des professionnels. Il y a eu un renouveau depuis quelques années avec des joueurs comme Raphaël Jacquelin, ou Jean Van de Velde, et tout ça, ou Dubuisson. Et aujourd'hui, nous avons un sport en France qui est en train d'évoluer dans le bon sens. Faut pas oublier que dans un an, nous avons la Ryder Cup, c'est la troisième compétition la plus suivie au monde au niveau télévision. C'est des centaines de millions de spectateurs qui suivent ce sport. Et avec la des champions, vous avez cité tout à l'heure Tiger Woods, mais il y en a d'autres. Et c'est vraiment un régal, c'est un plaisir, parce que c'est aussi un sport qu'on peut regarder à la télévision et c'est très intéressant.
Le mot de la fin pour aujourd'hui, peut-être Didier Tarnot, vous qui avez frappé vos premières balles il y a 30 ans sur ce site, vous l'avez vu évoluer, vous avez vu évoluer la place du golf, très optimiste donc pour l'avenir.
Oui, très optimiste, d'autant qu'une grande partie des joueurs de golf bon, arrive à un certain âge, disons, au-dessus de la cinquantaine, et qu'il se rassure, le matériel a fait de tels progrès, l'entretien des terrains a fait de tels progrès, qu'ils sont peut-être plus performants à l'âge de 50 ou 60 ans que nous ne l'étions quand on avait 25 ans.
Et puis on frappe toujours les balles à 30 ans plus tard, ça veut dire que ça entretient le golf, hein ?
Exactement.
Et nous prenons la route pour ce deuxième rendez-vous de découverte du golf de la Porcelaine. Nous sommes toujours installés au sein même de ce golf, précisément à Panazol. Et je suis aux côtés de Jean-François Blondeau. Quand on dit qu'on prend la route, bah, nous sommes en voiturette, hein, c'est le terme technique.
Ce sont des petites voiturettes, effectivement, qui permettent aux joueurs qui ne souhaitent pas jouer à pied, parce que généralement le golf se joue à pied, mais de pouvoir jouer effectivement en voiturette, c'est moins fatigant, c'est moins intéressant à mon sens, mais c'est moins fatigant.
L'animateur radio va préférer la voiture, c'est une bonne idée. Voiturette électrique, semble-t-il, au bruit.
Voiturette entièrement électrique, c'est donc à l'époque il y avait des voiturettes effectivement qui marchaient à l'essence mais qui étaient très bruyantes et très polluantes, et aujourd'hui nous avons des voiturettes électriques à notre disposition. Là vous êtes sur le trou numéro 1, c'est-à-dire c'est sur ce trou là où on commence le parcours de golf, qui est très accueillant pour des balles qui sont un peu égarées à droite ou à gauche. Il y a des jolis étangs et je peux vous assurer que dans ces étangs il y a des centaines et des centaines et des centaines de balles.
On les vide de temps en temps ou jamais?
Oui, on les vide, ils sont vidés très régulièrement parce que de toute manière qui dit étang, il faut aussi qu'il y ait des poissons dedans pour faire vivre les étangs. Et les poissons, ben, quand il y en a trop, il faut les vider. Et ce sont les jardiniers qui se chargent de cette tâche.
Une petite pensée aux poissons qui, de temps en temps, se font assommer par quelques balles égarées. Mais ce sont les lois du sport.
Oui, je l'ai pas vu tant que ça, mais ça peut arriver.
Alors le site, il est immense, hein, d'où l'intérêt de prendre la voiturette.
Grosso modo, la propriété que l'on loue fait à peu près 70 hectares. Et nous en utilisons pour le golf à peu près 45.
Différentes zones hein, pour les néophytes. profite, évidemment.
Alors, je vais vous présenter un petit peu les différentes zones que vous pouvez avoir. Alors, vous avez ce qu'on appelle le rough. Le rough, c'est la partie la plus haute, la plus extérieure du parcours. Ce sont des zones qui sont très, très peu tendues. Après, vous avez ce qu'on appelle le pré-rough, où on tombe un petit peu plus. Les fairways, c'est la partie où on se retrouve actuellement. C'est-à-dire, c'est une partie qui est tendue très rare. Et pour finir, vous avez le green. On va peut-être y aller si vous voulez voir le green.
Allons marcher, profitons. En plus, on a la chance d'avoir du soleil avec nous.
Voilà, alors vous avez le green qui pour l'instant était sablé parce que c'est l'entretien qui veut ça, mais qui sont les parties les plus rases du parcours, c'est sur lesquelles on doit faire rouler la balle pour la mettre dans le trou. Il faut savoir que sur un green, ça correspond à 50% du jeu. Un parcours doit se faire normalement pour un professionnel en 72 coups, et 36 coups sont consacrés à la roule de balle sur les greens.
J'ai peur d'être très très loin de ces chiffres-là, et c'est vrai que c'est assez marrant parce qu'on voit que la pelouse change de hauteur.
Je pense que vous avez à peu près entre 5 et 6 zones de coupe différentes sur un parcours.
Je ne sais pas si c'est un compliment, j'ai l'impression que c'est de la pelouse synthétique quasiment, c'est plutôt bon signe.
C'est plutôt bon signe, mais ce n'est pas du tout synthétique, c'est tendu régulièrement. Là, ils sont en train de tondre, je ne sais pas sur quelle partie, mais le fairway est tendu tous les deux jours. Les greens sont tondus tous les jours en période d'été, ou moins de printemps et d'été. Les roughs une fois par semaine, et les pré-roughs tous les deux jours.
On parle du green qui est sablé, c'est quoi l'intérêt de sabler?
Alors l'intérêt de sabler, c'est que le sable il rentre juste sur la première surface, et ça permet de faire relever le brin d'herbe.
Voilà, pour les choses très techniques, si vous voulez vous faire un green, pourquoi pas à la maison, donc n'hésitez pas. Et puis donc là le sable, on n'en manque pas en l'occurrence.
Alors on manque pas de sable parce que nous sommes ce qu'on appelle les bunkers. Il y en a à peu près 80 sur le golfe de la Porcelaine. Ce sont des endroits où il n'y a que du sable, comme vous pouvez le voir, et qui sont très souvent en approche des greens. C'est pour amener des difficultés au parcours. Le sable est un moment de jeu très difficile et très compliqué parce que c'est une structure sur laquelle on n'a pas l'habitude d'être, et on peut s'enfoncer régulièrement. C'est un des coups les plus difficiles du golf.
C'est ce qui fait la différence. Certains seront plus forts dans le sable que sur le green, et inversement.
Oh, généralement, quand ils sont plus forts partout.
C'est ça qui est un petit peu énervant. Bon, on va remonter à bord de notre voiturette. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a roulé très peu de temps et qu'on est déjà, on a l'impression d'être dans un autre monde. Finalement, on est coupé de tout. C'est vraiment une parenthèse finalement quand on vient faire une partie de golf ici.
Mais c'est une partie qui aurait été de notre golf, le golf de la Porcelaine, puisqu'effectivement, on est dans un endroit excessivement calme. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de train. De temps en temps, il y a un avion qui passe, mais c'est assez rare. Et effectivement, les joueurs ont quand même consigne de respecter les parties des autres et de ne pas faire de bruit pour pas déranger. Mais justement, là, il y a des joueurs qui sont au départ du trou numéro 2 et on va les laisser jouer.
Voilà, donc on va se faire très discret et on va redescendre. On était sur les points hauts, là on va avoir tendance à redescendre un peu plus bas.
On va redescendre sur le bas du parcours.
Allons-y, tout en discrétion pour nos joueurs. On a dépassé notre zone de joueurs. Alors on voit tout de suite la complexité qui se renforce.
Ben, il faut un peu d'expérience parce qu'on a un premier coup sur ce trou numéro 2, effectivement, qu'il faut être relativement long, et on a une arrivée sur le green qui est très compliquée parce que vous avez de l'eau, des bunkers, un green qui n'est pas si large que ça. Donc c'est certainement ce qu'on appelle nous notre plus beau trou certainement du golfe de la Porcelaine, parce que vous avez une vue qui est extraordinaire avec les étangs, le bunker, le green, les pales planches qui sont sur le bord des étangs, et c'est vraiment un trou mythique un peu.
Alors on a effectivement vu des joueurs frapper la balle il y a quelques instants. On se rend compte de la puissance du geste.
Pour un joueur professionnel, il faut savoir qu'il propulse la balle à peu près à 270 mètres avant qu'elle ne touche le sol, et ce en 7 secondes. Vous avez qu'à faire un petit peu la règle de 3 et vous rendrez compte de la vitesse qui doit être de l'ordre au départ de 280 km/h.
Voilà. Vaut mieux être ni face à la balle, ni derrière le club, en gros.
Ah, ni derrière, oui, surtout pas derrière le club, ni derrière la balle, parce que des gens qui reçoivent une balle sur la tête, généralement, ils restent un petit peu dans les vapes pendant quelques instants.
Voilà, c'est pas le principe, évidemment. Alors, il n'y a pas des parcours pour hommes et pour femmes, hein. Tout le monde joue sur le même parcours, mais il y a des différences de départ. Ce sont les petits cubes de couleurs qu'on a pu voir.
Tout à fait. Vous avez 5 zones de départ de mémoire. Vous avez des boules noires, boules blanches, boules jaunes en fonction des classements pour les hommes, et des boules bleues et rouges pour les femmes. C'est surtout sur la distance, hein, parce que vous pouvez avoir entre départs noirs, qui sont les départs les plus difficiles, et des départs rouges, pas loin de 120 mètres d'écart à peu près.
Il y a aussi de l'arrosage. Ça aussi, c'est des choses à surveiller constamment.
Nous avons effectivement un système d'arrosage sur l'intégralité du parcours. Aujourd'hui, nous avons 422 arroseurs sur tout le parcours. Ça fait partie de la gestion du golf, gestion quotidienne, parce qu'on a des pompes aussi très importantes qui tournent la nuit. Donc, il faut aussi gérer les quantités d'eau que nous avons dans nos étangs, parce qu'on a 9 étangs sur le parcours qui nous permettent d'avoir de l'eau. Ces étangs représentent à peu près 36 000 mètres cubes d'eau en réserve. On a une consommation tous les ans de pas loin de 65 000 mètres cubes d'eau pour arroser le parcours.
Donc voilà, beaucoup de travail. Alors là, on traverse la route, hein, donc ce site s'étend vraiment sur une très très large superficie. On passe à côté des petits panneaux donc, qui identifient le trou numéro 4. Il est écrit par 5, ça veut dire que ça c'est le nombre de coups que l'on doit frapper pour aller jusqu'au bout.
Voilà, nous devons faire exactement 5 coups pour aller dans le trou, hein, pas sur le green, dans le trou, 2 grands coups, puis après un coup d'approche et 2 coups pour putter.
Est-ce qu'il y a des endroits bêtes noires, on va dire, sur les 18 trous du parcours?
Oh, ben, tous les bons joueurs, déjà, ils redoutent au départ le trou numéro 2 sur lequel nous étions tout à l'heure, parce qu'avec ces deux étangs qui accueillent les balles des joueurs à bras ouverts, c'est quand même très compliqué. Il y a un des étangs qui a été curé justement au mois de mars. On a trouvé des dizaines de milliers de balles dedans.
Quand même. C'est-à-dire qu'on part avec combien de balles au départ pour combien à l'arrivée en général?
Le but du jeu, c'est que la balle avec laquelle on démarre et finit, c'est la partie. Mais c'est rarement le cas.
On lui dit toujours adieu en règle générale en début de partie. Et nous voilà en train d'arriver, magie de la technique. En quelques secondes seulement, nous avons parcouru tous les trous qui nous séparaient du 18e et une arrivée qui vaut l'effort pour tous les pratiquants et tous ceux qui viennent jouer ici sur ce golf de la Porcelaine.
Oui, avec les monts d'Ambazac sur notre droite, ce magnifique clubhouse qu'on a avec le restaurant. J'invite les auditeurs à venir voir ce golf fin octobre ou au mois de novembre, parce que là, vous avez toutes les couleurs du Limousin qui sont là et c'est absolument somptueux. Et on arrive sur un trou le 18 et qui, même si c'est censé être un trou pas trop difficile, avec l'obstacle d'eau à droite, le petit étang qui est à droite et puis tous ces bunkers qui s'ouvrent devant nous, c'est un trou qui est quand même très compliqué.
On peut aussi expliquer qu'il y a un respect ici à avoir, hein. On est sur un sport pas forcément comme un autre. Il y a une éthique très particulière, c'est le respect notamment du parcours. Tout au long, on le voit, il y a des râteaux au niveau des bunkers par exemple.
Mais est-ce que la règle de l'étiquette, c'est-à-dire quand on fait un mauvais coup sur le parcours, ben, la meute de gazon que l'on a enlevé, ben, on la prend, on la remet. Lorsque notre balle arrive un peu fort sur un green et que ça fait un petit trou sur le green, il faut vite la reboucher, parce que sinon c'est un vecteur pour des maladies qui malheureusement sont très connues des golfeurs, qui s'appellent la fusariose ou le dollar spot, qui sont des champignons. Et si jamais on ne respecte pas ces quelques règles nécessaires pour la vie d'un golf, ben, très rapidement le golf se détériore et on a moins de plaisir après à jouer dessus. Mais c'est le quotidien de tout joueur de se dire, chaque fois qu'on fait un coup de golf, on répare les petits dégâts qu'on a fait.
Et c'est notre troisième rendez-vous de découverte cette semaine du golf de la Porcelaine. Nous sommes toujours installés à Panazol, toujours aux côtés de Jean-François Blondeau, qui est le président du club de golf ici, et qui va nous parler de ce club justement dans une seconde, mais peut-être un mot d'abord de l'endroit où nous nous trouvons. On a la chance que le soleil soit avec nous pour ce tournage, et on est à côté d'une particularité de ce golf de la Porcelaine qu'on ne trouve qu'ici, en Haute-Vienne en tout cas.
Oui, tout à fait. Nous sommes sur ce qu'on appelle un pitch and putt, c'est-à-dire c'est un petit parcours, on peut dire compact, composé de 9 trous qui font entre 85 mètres et 55 mètres et qui permet pour tous les joueurs, les nouveaux joueurs comme les joueurs confirmés, de venir s'entraîner pendant une petite demi-heure pour améliorer son jeu d'approche et son putting qui est la dernière phase du jeu le plus important. Et c'est un parcours qui a été réalisé il y a 3 ans maintenant, initié par l'ancien président Bernard Joanneau, et qui nous permet d'améliorer un petit peu ce jeu si compliqué qu'est le jeu d'approche vers les greens.
Ouais, c'est pour ça que tout ce que ça a fatigué hier, notre balade sur 18 trous, parce que le 18 trous, on le fait en combien si on a déjà une bonne moyenne?
Bah écoutez, pour un joueur moyen, disons un dimanche matin en compétition, le parcours il se fait à peu près en 4h30.
Ouais, quand même. Donc certains préféreront sans doute les 25 minutes effectivement ici. En tout cas, vous parlez-vous de ce terrain avec amour. Vous êtes, on peut dire, amoureux de ce parcours du golf de la Porcelaine, hein.
Alors, je suis amoureux du golf en règle générale et du parcours de la Porcelaine en particulier, parce que c'est vrai que nous sommes dans un site exceptionnel qui est très calme, qui est vraiment le qui nous permet de nous relaxer. Je sais qu'à l'époque où j'étais encore en activité, à l'issue de mes heures de travail, je venais ici, j'arrivais à oublier tous les soucis de la journée en quelques minutes.
Et puis alors, juste avant de parler du club, évidemment, chose promise, chose due, un petit mot peut-être aussi de l'organisation au sein même ici du golf. Il y a une hiérarchie.
Oui, bien sûr. Il y a un comité directeur qui est composé de 18 personnes. Au sein de ce comité, il y a différentes commissions. Une commission de terrain qui donc s'occupe de toute la gestion du terrain. Une commission financière, parce que bien sûr, il faut quand même vérifier aux finances de notre golf. Il y a une commission de communication qui est dirigée par notre ami Jérôme Piprot, que vous connaissez bien. Il y a une commission sportive qui s'occupe de l'organisation de toutes les compétitions et de tous les déplacements des équipes. Tout cela chapeauté, on peut dire, par un bureau et un président. C'est 18 bénévoles qui travaillent au sein de ce comité, et c'est beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup d'investissement. Et bien entendu, il y a aussi du personnel. Nous avons donc 2 professeurs de golf, nous avons 2 secrétaires, 3 l'été, et nous avons entre 5 et 7 jardiniers en permanence sur le parcours.
Bon, alors il y a évidemment le site du golf, et puis il y a le club et différentes équipes.
Alors il y a un club donc au sein de cette association, parce qu'on est quand même un golf associatif, là, c'est l'association sportive du golf de la Porcelaine, et il y a un certain nombre d'équipes qui représentent à peu près tous les niveaux de jeu, puisqu'on commence avec les jeunes qui vont faire des championnats un peu partout en France, puis après vous avez des joueurs confirmés qui font partie de différentes divisions, 2 équipes en deuxième division, une équipe homme en promotion, et donc une équipe senior en deuxième division, et tout ceci, ça tourne dans toute la France. C'est un véritable club de golf, c'est du sport à ce niveau-là, c'est plus du jeu, parce qu'on rencontre d'autres équipes qui viennent de la France entière. Et je dois dire que le golf de la Porcelaine, pour l'instant, se tient bien.
Avec des femmes également qui sont bien représentées, elles ne sont pas majoritaires, mais on a des équipes féminines.
Ah non, on a des équipes femmes dans toutes les catégories, que ce soit en division, que ce soit au mid-amateur, c'est-à-dire au-delà de 35 ans, que ce soit dans les seniors au-delà de 50 ans. On a des équipes femmes dans tous les créneaux possibles de compétition.
Alors, ça se passe comment? Il y a une fédération française de golf, je suppose?
Il y a une fédération française de golf qui est très active, parce qu'elle comporte 450 000 membres, ce qui fait quand même un nombre d'adhérents en France très important. Et derrière la fédération, vous avez aussi des ligues, qui maintenant c'est la Ligue Nouvelle-Aquitaine, qui nous aide dans le développement du sport, dans le développement des écoles, et la fédération, bien entendu, qui gère des grands projets, comme je l'expliquais tout à l'heure, la Ryder Cup. La Ryder Cup, c'est une compétition qui aura lieu en septembre 2018, qui regroupe une équipe européenne contre une équipe américaine.
Et puis, ça veut dire concrètement, pour les membres du club, c'est quoi? C'est des entraînements? C'est les compétitions?
Pour les membres du club, c'est un practice pour pouvoir apprendre à taper les balles, pour s'entraîner, pour améliorer son swing. Et c'est des compétitions à partir du mois d'avril jusqu'à fin octobre, tous les dimanches.
Donc, compétition nationale, pas encore forcément internationale ici, mais pourquoi pas, une volonté?
International, je pense que ça sera dur, parce qu'effectivement il faut des équipements que nous n'avons pas, bien que le parcours, d'après tous les grands professionnels qui sont venus ici, qui ont dit que c'était un parcours qui pouvait accueillir des très grandes compétitions internationales, mais bon, après c'est une question de moyens. Mais par contre, oui, il y a des compétitions nationales qui se déroulent. Cette année nous n'avons pas eu, mais l'année prochaine on va en avoir. L'an dernier on en a eu. Ce sont des compétitions nationales pour des amateurs, et peut-être qu'un jour, si l'on peut, on essaiera de faire une compétition internationale, mais bon, faut pas trop rêver.
Voilà, gardons des projets pour l'avenir, et puis le palmarès, des choses intéressantes quand même à signaler, parce qu'on a des vrais bons professionnels ici.
On a deux professeurs de golf qui sont des très bons joueurs de golf, Pierre Signeux et Alexandre Delhomme, et puis après on a quelques amateurs qui se débrouillent bien, parce qu'on a parmi nos membres le champion de France de la SNCF, qui a gagné ce titre l'an dernier au mois de septembre. Nous avons des joueurs seniors qui sont au ranking national, notamment je pense à Laurent Muritz qui doit être dans les 41 premiers joueurs français, plus après d'autres joueurs, des jeunes aussi qui se débrouillent très bien.
Et puis on ira rencontrer justement Alexandre Delhomme qui est un professionnel qui transmet son savoir aux plus jeunes avec l'école de golf. On ira à sa rencontre demain pour terminer sur ce rendez-vous ensemble et avant de se retrouver vendredi pour terminer la semaine. Et on ira s'installer au cœur du restaurant. C'est évidemment la récompense bien méritée après avoir fait ce grand parcours en voiturette, rappelons-le quand même, hier, pour évoquer l'objectif peut-être ultime, le rêve de tous les joueurs ici et du club.
Oh, le rêve de tous les joueurs du club, c'est effectivement, notamment pour les jeunes joueurs, c'est d'accéder à des niveaux de première série nationale, c'est-à-dire des joueurs qui jouent, au lieu de jouer 72, qui vont jouer 68, 69, dans des classements entre moins 2 et plus 2. Ça, c'est le rêve de tous les jeunes joueurs. Pour nous, les joueurs un peu plus âgés, ben, c'est de se maintenir en forme pour pouvoir faire les 18 trous sans problème, parce que l'endroit est magnifique, et c'est du sport, c'est de la marche, donc c'est bon pour la santé. Et puis après, ben, le rêve de nos équipes, c'est d'accéder à des divisions supérieures, mais on n'est pas tout seul en France, il y a beaucoup de monde, mais bon, on s'y emploie, on va faire des compétitions, ça peut aller à Lamnezan, on va être état, on va en région bordelaise, donc on se balade beaucoup, et le rêve de tous les bons joueurs, c'est aussi de faire partie de ces équipes qui défendent notre golf et qui portent haut et fièrement les bannières de notre golf.
Voilà, et c'est les rêves qui font avancer, donc il en faut plein la tête.
Ah, il en faut plein la tête, des rêves, mais vous savez, toutes les nuits, chaque joueur, il rêve qu'il va jouer 72 le lendemain, et puis après, au bout de quelques trous, il y a les espoirs qui s'en vont, mais le plaisir est toujours là.
Voilà, et le rêve revient la nuit suivante, bien évidemment. Nous, on va se retrouver ensemble vendredi, mais demain, d'ici là, on va s'intéresser à l'école de golf, évidemment aux prochaines générations qui sont formées ici, les prochaines générations de grands champions. On verra ça avec deux prochains invités et je vous retrouve vendredi au restaurant tranquillement installé pour refermer la semaine et parler des à côté de ce club de la porcelaine. Et c'est notre nouveau rendez-vous de cette semaine installé au golf de la Porcelaine. Nous sommes à Panazol et nous sommes en pleine nature, vous l'entendez derrière nous, puisqu'il fait beau et que ce golf de la Porcelaine est en train de se faire une petite beauté. Nous sommes avec nos deux nouveaux invités de cet avant-dernier rendez-vous, Alexandre Delhomme qui est le numéro 2 en ce qui concerne l'école de golf dont nous allons parler aujourd'hui, et puis Frédéric Rivoire qui lui est un bénévole et qui est responsable des jeunes au sein de cette école de golf. Elle a ouvert ses portes en même temps que golf finalement il y a déjà 30 ans.
Tout à fait, elle a ouvert en 88. Elle se compose essentiellement d'un groupe d'une quarantaine d'enfants âgés de 7 à 16 ans qui viennent le mercredi après-midi sur un créneau de 2h30 ou le samedi sur un créneau d'une heure, deux fois une heure. Et parallèle à ça, depuis 7 ans, on a monté du baby golf pour une première marche pour accéder à cette école de golf qui est de 3 à 7 ans. Et on a un troisième groupe, on va dire, un peu plus compétition, qui eux, en plus de l'école de golf, ont des entraînements le dimanche matin avec de la préparation physique, de la préparation mentale et bien évidemment du parcours à thème et plein d'exercices, des ateliers, faire passer la balle dans des cerceaux, changer de trajectoire parce que c'est très important au golf.
Voilà. C'est qu'il y a beaucoup de choses à apprendre pour appréhender ce sport. On vient pas directement avec le club pour frapper la balle, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Ah non, d'abord faut prendre des cours et après avoir une autorisation pour aller sur le parcours. Surtout pourquoi ? Pour la sécurité. Et aussi ne pas abîmer le terrain et que tout le monde puisse jouer ensemble parce que les parties suivent toutes les 10 minutes. Donc il faut quand même avoir un certain apprentissage et savoir taper un peu la balle.
Alors ça veut dire que là on n'est pas sur le parcours, on est sur ce qu'on appelle le practice ?
Le practice, tout à fait, c'est la zone d'entraînement où on apprend et où les meilleurs joueurs s'entraînent aussi, c'est-à-dire refont leur gamme. Derrière nous, on a un jeune qui va bientôt s'entraîner au putting, qui est la partie la plus importante du parcours. C'est-à-dire, c'est comme du mini-golf en fait, s'exercer à différentes distances du trou pour trouver le bon dosage et rentrer la balle dans le trou.
Alors, practice qui fait une superficie de combien ? Il y a déjà de quoi faire ?
Oui, parce que le putting green que vous voyez là, il fait déjà 1000 m². Et après, on a toute cette étendue qui fait 300 mètres de long. Pourquoi 300 mètres ? Ça, c'est pour les grands coups, hein, le drive, le coup de départ en fait. Et après, on a tous les greens d'approche pour travailler les coups de moins de 100 mètres à peu près. Et on complète par notre compact qui est là-bas, qui est 9 trous. Qui font maximum 90 mètres pour justement s'entraîner à ce secteur-là.
Qui sont les enfants qui viennent au sein de l'école de golf précisément ?
Tout le monde, il suffit de s'inscrire, il n'y a aucun problème. tous ceux qui veulent se mettre au golf sont les bienvenus.
Alors, de façon très concrète, aujourd'hui, plus de garçons, plus de filles, on a une moyenne d'âge.
Alors, nous, bizarrement, notre école de golf s'est beaucoup rajeunie, là. On est plutôt sur une moyenne d'âge de 11-12 ans. Beaucoup de ces enfants-là ont des parents non golfeurs. Alors qu'avant, l'ensemble, pratiquement l'ensemble des enfants, les parents étaient golfeurs. Et on a beaucoup plus de garçons que de filles, malheureusement. Par contre, au baby golf, c'est l'inverse. J'ai beaucoup plus de filles que de garçons. Donc en espérant qu'elles continuent l'activité plus tard.
Alors comment on explique que des jeunes qui n'ont pas de parents golfeurs soient attirés par cette discipline? Comment s'est fait le contact?
Bah déjà, les jeux vidéo, tout simplement. Hein, quand la PlayStation Tiger Woods... a sorti son jeu vidéo, ben, les enfants le jouent et se disent pourquoi pas.
Alors on va justement s'intéresser avec Frédéric Rivoire, donc, qui est responsable auprès des jeunes au sein de cette école, sur ce premier contact, justement ces jeunes qui arrivent ici pour les tout premiers pas par exemple, ça se passe comment?
Oui, il y a beaucoup de boulot en fait, on peut compter également sur nos bénévoles pour les encadrer, pour leur donner les conseils, nos deux pros. Ce qu'il faut, c'est que les parents également s'investissent un petit peu. On ne laisse pas son enfant comme ça, sans lui donner quelques valeurs sur le comportement, l'attitude, le côté sportif. Donc, il faut que les parents comprennent que c'est un sport, ce n'est pas une garderie. Le site que nous avons est très sécurisé, mais il faut que quand même les parents soient derrière pour obtenir un résultat. Voilà.
On n'est pas sur un terrain de foot où on va se défouler, courir, crier, faire du bruit. Là, c'est un autre état d'esprit quand on vient faire du golf.
Ah, tout à fait. Il faut avoir une certaine éducation, respecter les règles de base. On appelle ça l'étiquette. Donc, respecter l'étiquette. Donc, déjà, il y a une tenue vestimentaire. Il faut avoir des chaussures adaptées pour ne pas détériorer le terrain. Respecter également les autres joueurs. Et c'est un sport de concentration. Donc, il faut quand même... avoir tout ce fameux respect d'étiquette. Voilà.
Des jeunes qui auraient peut-être un petit peu de mal à se concentrer, justement, ce sport-là va leur apporter des choses au-delà du sport?
Ah bien sûr, c'est évident, puisque ça demande beaucoup de qualité technique et physique, mais en même temps, il faut énormément de mental, parce que bon, un putt, c'est-à-dire un coup qui se joue à un mètre du trou, n'est pas donné. On a fait quelques bons coups avant et on croit que c'est gagné. Et c'est à ce moment-là que tout peut lâcher. Donc pour un enfant, c'est vrai qu'il faut savoir se concentrer jusqu'au bout. Une partie dure 18 trous, on ne lâche jamais rien. Voilà.
Alors Alexandre Delhomme, le mental joue, mais le physique aussi. Les aptitudes, elles vont évoluer, on en parlait hors antenne, avec l'âge et surtout avec la taille des jeunes qui font partie de l'école.
Bien évidemment, hein, un enfant de 10 ans ne pourra pas envoyer la balle aussi loin qu'un adolescent de 16. Donc déjà, ça va jouer sur le score, hein, même si les parcours sont adaptés maintenant. Hein, on a différents types de parcours pour nos jeunes. Les U12, U14, U16, c'est-à-dire under 12, en dessous de 12 ans, en dessous de 14 ans, en dessous de 16 ans. Et puis on le voit là, grâce au sport professionnel, on le voit, c'est devenu des vrais athlètes avec un préparateur physique, un kiné, un ostéo. Faut vraiment maintenant taper fort et on voit bien que le gabarit a changé. Et il y a une vingtaine d'années, on voyait un peu tout type de joueurs et avec l'arrivée de Tiger Woods, ça a explosé.
On sait qu'au foot, on va s'échauffer, au golf, on n'a pas la pression qu'il faut le faire et pourtant,
si, il faut s'échauffer. Hein. Il y a des protocoles pour nos jeunes, par exemple, en équipe U16, ils doivent être présents une heure et demie avant leur type départ pour commencer à s'échauffer, déverrouiller les articulations, même courir pour remonter le corps en température, tout ça. Et ensuite, on passera sur une phase où on va taper des balles pour finir cet échauffement.
Donc ça veut dire que le corps change aussi et évolue grâce à la pratique du golf?
Oui, parce que les enfants sont obligés d'avoir une certaine dextérité pour déplacer le club dans l'espace. Donc il y a de la rotation, il y a de la marche. Enfin, c'est un sport assez complet en fait. On a l'impression que c'est juste une balade, mais il faut savoir baisser son rythme cardiaque quand on est en tête d'un tournoi par exemple. Il faut gérer ses émotions. Parce qu'on a le temps, c'est un sport où on a le temps en fait. Le foot, le tennis ou d'autres sports, bah, on est tout le temps dans l'action. Tandis que le golf, on a 30 secondes pour taper une balle, mais le coup en lui-même, il dure une seconde ou deux. Donc, et après, on a les 3-4 minutes pour marcher jusqu'à sa balle. Donc là, on a le temps d'avoir plein de pensées, plein de choses. Et ça, il faut réussir à le gérer.
Et ça veut dire que cette formation-là, ça se fait sur du long terme, on ne devient pas Tiger Woods du jour au lendemain.
Alors aujourd'hui, on voit des joueurs exploser de plus en plus tôt, parce qu'on commence de plus en plus tôt, mais il faut quand même une petite dizaine d'années pour faire un bon joueur. quand on les prend à l'âge de 3 ans, voilà, vers 13-14 ans, ça deviendra déjà des bons joueurs.
Et alors avant de voir si on peut s'attendre à voir émerger les graines de champion ici, un mot tous les deux, votre rencontre avec le golf, on est forcément passionnés.
Passionné, oui, on l'est. Hein. C'est, pour moi, j'ai plutôt tendance à dire que le golf, on essaye, soit on aime ou on n'aime pas. Il n'y a pas vraiment de juste milieu. Et quand on aime, ça va vite. Hein. On planifie même ses vacances en fonction des golfs qu'il y a, des endroits où on veut voir tel golf, qui a joué sur ce parcours. Ça devient omniprésent dans sa vie de tous les jours même.
C'est vrai que ça prend du temps. Et quand on commence à être passionné, quand on a des enfants qui ont envie de progresser, les week-ends sont vite planifiés. Et là, bon, avec les beaux jours, jusqu'à l'été, bah, je peux vous dire que nos enfants ont des week-ends qui sont cochés, entre guillemets.
Hein. Pour terminer, les graines de champion, puisqu'on parle de cette école, il y en a ?
Ah oui, il y a eu, et je pense qu'il va y avoir. Là, on en a présenté 4 aux préqualifications pour les championnats de France, et on en a 3 qui sont bien placés pour aller à Bordeaux-Lac, et ensuite aller au championnat de France qui va se dérouler à la Baule cette année.
Et en tant que prof ou encadrant, pro ou bénévole, c'est une vraie fierté.
Ah ben tout à fait, hein. Quand nos jeunes deviennent adultes et qu'ils vont faire leurs études, on regarde au niveau des championnats de France qui joue dans quelle équipe et on en voit qu'ils sont issus de chez nous et qui font de très belles performances. Et on a cette fierté et nos bénévoles aussi.
Et les bénévoles ne seraient pas là si les petits ne nous apportaient pas autant de bonheur.
C'est une émulation réciproque.
Ah complètement. On fait partie de l'équipe. C'est vraiment une équipe porcelaine, tout âge. C'est fabuleux.
Et on va refermer cette semaine passée installée au golf de la Porcelaine. On va essayer de se faire discret puisque nous sommes entourés de joueurs hein, qui pour certains ont terminé peut-être le parcours et en profitent pour se poser un petit peu. Nous sommes toujours à Panazol et toujours en compagnie de Jean-François Blondeau qui est le président du club que nous retrouvons pour refermer cette semaine. Pour parler des à côté, parce que évidemment il y a ce site magnifique, il y a ce parcours, ces 18 trous qui attendent les joueurs évidemment à bras ouverts. Et puis il y a des à côté, notamment où nous sommes installés, c'est le restaurant de la Porcelaine qui est aussi une attraction bienvenue après avoir parcouru peut-être 4 heures sur le terrain.
Oui, tout à fait. Le 19e trou se situe dans le restaurant du golf de la Porcelaine qui est tenu par nos amis Gérard Chevalier, Jérôme Ivars et Christine Chevalier. C'est un endroit assez sympathique où on peut, après une longue partie, boire des consommations diverses, voire manger, parce que c'est un très bon restaurant de cuisine traditionnelle, et discuter avec les copains, de refaire le monde, de parler des choses et d'autres. En ce moment, on a beaucoup de sujets, de la politique, un certain nombre. On a tous des avis différents. Et comme sur le parcours, bien entendu, pendant qu'on joue, on évite de parler de ces sujets-là. Ça permet à ce moment-là, sur la terrasse, qui est absolument magnifique et qui domine l'arrivée du 18 et le départ du trou numéro 10, de pouvoir se reposer un petit peu et finir la partie, la refaire, parce que tout golfeur refait au moins 2-3 fois sa partie avant la fin de la journée et pour pouvoir discuter ça d'une manière sympathique.
Ouais, est-ce qu'on se fait directement le 19e trou? C'est possible aussi, uniquement celui-ci?
Bien sûr que tout est possible. Ce restaurant est un restaurant ouvert à tout public. Tout le monde peut venir manger au golf de la Porcelaine dans un cadre absolument magnifique.
En profiter, effectivement, avec une vue très sympathique. Alors après, au-delà du restaurant, il y a aussi la boutique, parce qu'on peut s'équiper, évidemment, avec du matériel de qualité. On est là entre professionnels.
Mais bien sûr, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer le golf. Après, sur commande, on peut avoir du matériel un peu plus évolué. Tout est à disposition. On peut acheter des balles, on peut acheter des t-shirts, des parapluies, des sacs, tout ce qu'il faut, des chaussures, tout ce qu'il faut pour qu'un joueur puisse jouer sur le parcours et prendre du plaisir sur le parcours.
Alors justement, pour terminer, un mot sur la place du golf aujourd'hui. On l'a dit, c'est un sport qui demande à être popularisé encore plus. Peut-être, voilà, on le sait, le football, il n'y a besoin de rien faire, ça fonctionne très bien. Les jeunes jouent ça sur la route. Le basket, évidemment, en Limousin fonctionne également très bien. Le golf, c'est aussi un challenge quotidien de continuer de le promouvoir.
Mais surtout pour les dirigeants de clubs, effectivement, c'est essayer d'abord de faire venir des jeunes. Donc, nous faisons des interventions dans des écoles ou des collèges. D'ailleurs, régulièrement, vous avez fait toutes les semaines du moins des jeunes qui viennent du lycée Turgot pour pouvoir se perfectionner sur ce sport et ça peut faire partie des épreuves au niveau baccalauréat, des épreuves sportives au niveau du baccalauréat.
Le Limousin. Limousin, on a la chance d'avoir un environnement assez privilégié. Quand on dit jouer au golf à Paris, c'est quand même un peu moins sympa que de venir jouer au golf en Limousin.
Ah ben c'est sympa à Paris aussi, mais le problème c'est que entre le centre-ville de Limoges et le golf porcelaine, il faut un quart d'heure. À Paris, il faut deux heures, donc, avec ou sans circulation. Donc non, ici c'est vrai que nous sommes dans un cadre extraordinaire, mais je crois que quand j'ai dit que j'étais très amoureux du golf à porcelaine, je suis très amoureux du Limousin. C'est ma terre natale et on a une chance de vivre dans un paysage magnifique. Le golf en fait partie et il faut en profiter.
Et le golf en France par rapport au reste du monde, le golf est très installé quoi, en Grande-Bretagne, aux États-Unis quand on parle de Tiger Woods par exemple. En France, on a encore des choses à faire.
Oh, il y a encore beaucoup de choses à faire en France, mais la Fédération française de golf s'emploie à ça pour promouvoir ce sport-là, notamment auprès des jeunes. Bon, c'est sûr que par rapport aux États-Unis, l'Angleterre ou après d'autres pays comme la Chine où le golf est en plein essor. Il reste encore beaucoup de choses à faire en France, mais ça vient tout doucement. Et nous sommes persuadés que la compétition Ryder Cup qui aura lieu l'année prochaine va motiver certaines personnes à venir découvrir ce sport.
Non, c'est des moments importants. L'avenir justement du site même du golf de la Porcelaine, il y a d'autres projets en dehors évidemment de la promotion du golf en général. On a déjà des envies, même peut-être à long terme, mais voilà, c'est ce qui fait avancer.
Ah ben, ce qui fait avancer, d'ailleurs, on a des projets de travaux parce qu'il va falloir notre golf à 30 ans. Il va falloir qu'on refasse tout le système d'arrosage du parcours, mais on a d'autres projets au niveau notamment de faire un practice couvert digne de ce nom, parce que pour l'instant notre practice couvert n'est pas top, donc c'est un projet dans les 1 ou 2 ans, et puis après améliorer le parcours, essayer de redessiner certains trous pour les rendre un peu plus jolis qu'ils ne sont encore. De toute façon c'est un parcours étant perpétuelle évolution et nous sommes bien obligés de nous adapter aussi aux contraintes techniques parce que le matériel a fait énormément de progrès, donc les jeunes joueurs tapent de plus en plus fort, donc on est obligé d'adapter aussi le sport.
Donc il faut venir et revenir, il y aura toujours des choses à découvrir. Ici le mot de la fin pour ceux qui peut-être n'ont jamais mis les pieds, s'il y avait un mot pour les convaincre de sauter le pas.
Bon, le mot de la fin c'est passer un moment extraordinaire dans un endroit magnifique.